Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, 68% de remise immédiate sur la deuxième boîte de capsules de lessive Homo 3 en 1.
À 22 centimes la lessive, je veux bien faire celle du voisin.
Eh ben comme ça, tout le monde est content. Auchan, avec plaisir. 11,87€ les deux boîtes de lessive Homo Monoï au lieu de 17,98€. 8,99€ la boîte vendue seule, soit 12,71€ le kilo. Existant d'autres variétés valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
C'est RMC, c'est le week-end des experts et c'est les animaux. Deuxième partie de ce rendez-vous que vous retrouvez exclusivement sur RMC tous les dimanches. Et puis je vous rappelle que juste après, on enchaînera avec l'automobile et Jean-Luc Moreau qui sera à mes côtés 8h, 10h, 2h entières dédiées à l'automobile avec un essai, celui de la Mazda CX-3 1.5 Skyactiv. Et puis en deuxième partie, on s'intéressera à la place croissante des femmes dans l'automobile. 49% des conducteurs sont des conductrices aujourd'hui et 50% des femmes en Europe achètent leur voiture seules sans même consulter leur compagnon. Mais qu'est-ce que c'est que cette émancipation, les amis? Il va falloir quand même qu'on redresse tout ça tout à l'heure avec Jean-Luc.
Oui, et ben grâce aux femmes, les voitures ont des couleurs.
Oui, et des bosses parfois aussi.
Oh.
Enfin non, là j'exagère un peu.
Mais
peut-être.
Quel sexisme, c'est pas possible.
Non, mais c'est vrai que parfois, lorsque vous faites des créneaux, on l'a remarqué, vous mettez un petit peu plus de temps que nous.
Ah, c'est pas vrai, moi je suis une championne des créneaux.
C'est vrai?
Ah oui.
Ouais, mais quand vous vous garez, qu'il n'y a personne autour. Oh. Là, vous vous garez bien.
Je rêve. Je ne répondrai même pas à cette insulte.
Mais c'est pour vous taquiner, Laetitia, bien sûr. Donc, ça sera l'automobile tout à l'heure avec Jean-Luc Moreau et vos questions au 32-16. Mais d'ici là, on poursuit notre rendez-vous animaux. Deuxième partie, Laetitia, avant de parler tout à l'heure d'une école pour chiots qu'on va découvrir, car c'est la rentrée aussi pour les chiots, visiblement.
Eh oui.
Avant tout cela, on va s'intéresser au loup qui veut la peau du loup.
Eh oui, et nous sommes pour commencer avec François Moutou, qui est docteur vétérinaire, président d'honneur de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères et auteur de plusieurs livres, dont le livre Histoire remarquable, les animaux aux éditions de la Chouinessé et aussi Mammifères sauvages de France aux éditions Nathan. François, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bienvenue. Alors, avant d'en venir à cette polémique sur l'abattage des loups en France, faisons un point avec vous sur la situation de ce grand mammifère, ce grand prédateur. Aujourd'hui, quels sont ses effectifs et où se cache-t-il en France, le loup ?
Alors les effectifs, c'est toujours une question difficile pour une espèce sauvage parce que les compter n'est pas si simple et les animaux ont plutôt tendance à se cacher. L'ordre de grandeur, hein, c'est l'ordre de grandeur, c'est à peu près 300 aujourd'hui en France, mais en fait, il faudrait mettre un intervalle de confiance autour du chiffre qui pourrait aller de 220, 230 jusqu'à 380 par exemple, donc 300 plus ou moins 80, c'est l'ordre de grandeur aujourd'hui, voilà.
Et ils sont pas tous avec quelque chose qui puisse les repérer.
Non, ils n'ont pas de GPS. Ils n'ont pas de GPS.
Il y en a
pas.
Qui sont suivis.
Il y en a quelques-uns qui ont été suivis. Alors c'était tout un travail pour capturer des animaux, parce que c'est pas si simple. Leur mettre des colliers, l'idée était de voir leur façon de vivre, les proies qu'ils pouvaient capturer, et donc l'impact qu'ils pouvaient avoir sur la faune sauvage.
Et ce qui est dommage, c'est qu'après ce collier, la batterie se vide,
Des colliers spéciaux qui se libèrent eux-mêmes, et il y a une partie de données qui est enregistrée dans le collier qu'on peut récupérer à ce moment-là, avec un signal qui localise l'endroit où est le collier. Donc c'est des moyens assez sophistiqués. Et ce qui est dommage, c'est que pour différentes raisons, pas toujours très claires, on n'a pas rendu public les résultats. Il ne devait pas arranger tout le monde, alors que sans doute, c'était intéressant de voir ce que vraiment les loups mangeaient. Et ça semblait bien se passer dans l'écosystème des Alpes, puisque donc la deuxième partie de la question, c'est l'arc alpin, puisqu'ils sont venus d'Italie par proximité géographique toute simple. Et de là, comme ce sont des animaux qui bougent beaucoup et qui ont besoin de beaucoup d'espace pour chaque famille, on les trouve dans les Vosges vers le nord, on les trouve dans le Massif central, mais pas tant que ça vers l'ouest, et dans l'est des Pyrénées. Et ce qui est assez curieux, ces loups pyrénéens, quand on a pu les typer au niveau génétique, sont des loups qui viennent certainement de la population italienne et pas de la population espagnole.
C'est-à-dire, comment ils ont fait ?
Eh ben, ils ont traversé la vallée du Rhône. Les loups aujourd'hui traversent la vallée du Rhône.
Les routes, les autoroutes.
Il y a des ponts. Et ils prennent les ponts comme tout le monde. Ils enjambent le Rhône, ils enjambent
c'est
la voie de TGV, ils enjambent l'autoroute. Et si la nuit une voiture voit un chien sur le bord de la route, elle dira tiens c'est un chien et ça peut être un loup en fait.
Ah oui. Alors revenons aussi, vous venez d'en parler. Certains disent que le loup a été réintroduit en France comme l'ours des Pyrénées par exemple, dont certains politiques. Non.
Ben c'est une rumeur et donc c'est à traiter comme tel. Donc il y a des gens que ça arrangerait que ça soit vrai, mais ça n'a pas de sens. Mais donc la rumeur c'est quelque chose qu'on croit, c'est pas quelque chose qui est fondé sur des choses absolument objectives. Quand on connaît la biologie du loup. Et depuis des années, en Italie, il est bien suivi. Les collègues italiens avaient dit, mais vous savez, les loups sont bien présents chez nous. Ils sont dans toute la chaîne des Apennins. Ils sont dans le Piémont italien, oui. Donc côté Alpes, mais italien. Et évidemment, les frontières n'ont pas de sens pour eux. Et il y en aura bientôt chez vous, en France. Et c'est arrivé. Donc les premiers ont été vus officiellement en 92.
Alors qu'ils avaient disparu dans les années 30.
Voilà, les loups ont été éliminés de France. C'est un choix politique, social, qui a commencé il y a très longtemps. Et ils ont été exterminés un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale.
Alors, quelle est la dynamique des populations de loups? Est-ce qu'ils sont en croissance? Est-ce qu'ils augmentent? Alors, certains bergers disent qu'il y en a de plus en plus et beaucoup, beaucoup.
Alors, les loups ne pullulent pas. On ne peut pas avoir des milliers de loups au même endroit. Donc, ils marchent par famille, donc par meute, qui ont des surfaces qui se comptent en kilomètres carrés. Et quand une famille a des jeunes qui s'émancipent, les jeunes vont s'en aller à plusieurs dizaines de kilomètres pour fonder une nouvelle famille et donc ça avance comme ça.
Et parce qu'ils sont rejetés en fait, c'est
ils
ça.
Ils sont rejetés, oui, ils s'en vont. Parfois, c'est pas d'accord. Toujours aussi évident. C'est pas forcément les adultes qui les chassent.
Oui, c'est une
émancipation. Parfois, les jeunes ils disent voilà, j'en ai marre des parents, ouais, voilà. On va s'installer chez nous, on est grand, on y va.
Je veux plus vivre chez papa, maman.
Voilà.
Exactement.
Il y a pas de tanguy chez les loups.
Il y a pas de tanguy chez les loups.
Il semble pas. Ou alors c'est sans doute marginal. Et alors ils avancent comme ça de proche en proche. Et donc là, si on prend donc de 92 2015, on arrondit à 25 ans. Donc si on est passé de quelques individus à 300, l'ordre de grandeur à peu près d'aujourd'hui, c'est pas tellement finalement comme croissance. Et la dynamique
potentielle. En 25 ans, oui, c'est pas beaucoup.
Donc la dynamique potentielle qui est connue dans d'autres régions du monde aurait permis une croissance nettement supérieure. Et donc on pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de braconnage.
Ah oui, c'est ça, on n'en parle jamais des braconnages.
Par principe, c'est pas ça, il y a pas de statistiques sur le braconnage, les gens qui le font s'en vendent pas toujours ou alors de manière un petit peu détournée, c'est quand même illégal. Alors le paradoxe c'est qu'il y a des abattages légaux et qu'on va rajouter au braconnage et parfois ce qui est assez dommage c'est que ou bien on tue des loups ou bien on tue pas, mais chaque loup mort est un loup en moins par rapport à la population. Donc il faut ajouter les animaux braconnés aux animaux tirés légalement si on veut avoir une gestion cohérente de cette population. Et ça c'est parfois difficile à obtenir.
Alors bon, vous savez que depuis son retour en France, il déchaîne les passions, le loup. En particulier, les bergers l'accusent de décimer les troupeaux. Alors, qu'en est-il vraiment? Quel est le comportement alimentaire du loup? Qu'est-ce que il chasse quoi? Est-ce que le mouton est vraiment à la base de son alimentation?
Alors, le loup est un prédateur, c'est clair. Il ne mange pas de yaourt ou de salade. Il a besoin de viande et c'est un chasseur. Donc, il est capable de chasser. Alors, il est très opportuniste. S'il trouve un cadavre, il est capable de s'en satisfaire. Ça fait ça.
Il peut manger une charogne.
Oui, surtout en plein hiver, quand les proies sont difficiles à trouver ou que les proies sont peu nombreuses. Mais le loup mange d'abord des ongulés sauvages, donc des petits sangliers, des cerfs, des chevreuils, des chamois, des mouflons, tout ce qui est à disposition. Et on en a beaucoup en France.
Et on en a beaucoup parce le problème, c'est qu'on n'a pas de grands prédateurs en France.
Et on n'en avait plus. Et il y avait un certain refus de la part des chasseurs d'avoir des concurrents à quatre pattes. Bon, voilà, ça c'est plutôt une position intellectuelle qu'objective. Mais voilà, c'est un fait. Et donc, imaginez que les voitures en France tuent à peu près 20 000 chevreuils tous les ans. Et que le tableau de chasse aux chevreuils doit laisser 50 000 chevreuils en moins que ce qui était autorisé à tirer. Donc, il y a un potentiel d'alimentaire pour les loups considérable.
C'est pour ça aussi qu'ils sont venus en France.
Ils ont à manger, ils ont un couvert et ils ont de la nourriture.
Alors les moutons
posent un problème dans les Alpes où on a un type d'élevage assez particulier qui est l'élevage transhumant et qui depuis quelques décennies se faisait dans un pays sans loups et souvent de façon non gardée, sans berger. Or ça, c'est jamais une très bonne idée parce que en montagne, tout le monde le sait, il peut y avoir des intempéries violentes, soudaines. Sûr, ouais. Et on a régulièrement des troupeaux qui dérochent en partie à cause du brouillard, à cause d'un éclair, à cause d'un gros orage. Donc il y a des pertes parce que les troupeaux étaient laissés à leur propre décision de choisir la bonne ou la mauvaise direction. On a beaucoup de chiens qu'on appelle errants, mais qui sont des chiens divagants, qui sont les chiens du
monsieur,
voisin,
voilà, oui.
Qui sont des chiens des touristes qui se baladent, qui courent après les moutons parce que c'est rigolo, et les moutons avec leur voix, leur façon sociale de réagir, grégaire, ça peut faire des catastrophes. Mais c'est vrai aussi que les moutons sont parfois la proie des loups, d'autant plus qu'ils ne sont pas gardés.
Alors, on va en parler justement de ces moutons qui sont la proie des loups, comme vous le dites. C'est peut-être ce qui cristallise tout ce qui...
Bien sûr.
Voilà, tout ce sujet. 7h20 sur RMC, au cœur de ce week-end des experts animaux. On revient dans un instant. Et si vous voulez réagir, n'hésitez pas, 3216 ou bien animaux@rmc.fr. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h21, c'est RMC et on parle du loup ce matin, Laetitia Barlerin, le loup qui est véritablement menacé. On le voit et on en parle avec notre invité.
Oui, nous sommes toujours avec François Moutou. Alors François, on a parlé donc des attaques de loups contre les moutons, mais vous savez qu'il y a une peur ancestrale du loup. On a peur du loup, d'ailleurs dans les comptines pour enfants, le loup c'est toujours le méchant. Est-ce que le loup est un danger pour l'homme ?
Alors cette relation avec le loup et la peur qu'il apporte ou pas est assez étonnante parce qu'elle varie avec les pays et les histoires et les cultures. Prenez l'Italie, notre voisin, grâce à qui les loups sont revenus chez nous. Leur référence au loup, c'est Romulus et Rémus,
et
la
oui.
louve qui élève les enfants qui vont fonder Rome. Et chez nous, c'est le petit chaperon rouge qui mange les chaperons rouges et les grands-mères. Et c'est le même animal. Alors vous passez les Alpes, vous passez la frontière, et voilà deux images différentes du même animal. Alors où est la réalité ? Mais c'est vrai que le loup, c'est ancêtre de tous les chiens. Donc c'est la forme sauvage de tous nos chiens domestiques. Et malheureusement, vous savez que tous les ans, on a des accidents avec des chiens, tout ce qu'il y a de plus domestique. Et parfois, des enfants, des adultes sont mordus. Parfois, des enfants sont tués par des chiens. Et donc, physiquement, le loup, évidemment, a la force de mordre quelqu'un. Sauf que c'est quelque chose de tellement rare qu'au Canada, par exemple, on a promis de l'argent à toute preuve évidente, non discutable, d'une attaque mortelle sur une personne par un loup. Il a fallu des années avant d'arriver à avoir cette information. Donc c'est quelque chose de rarissime. Alors on ne peut jamais dire jamais, mais le souci du loup n'est certainement pas le risque pour les personnes.
C'est-à-dire, à se balader dans les Alpes, on n'a pas de risque d'être mordu ou attaqué.
On a tous beaucoup plus de probabilité. Le mot chance est toujours malvenu dans ces cas-là, d'avoir un accident, de tomber, de glisser.
Puis le loup a peur de l'homme.
Voilà,
c'est
bien sûr que si on se rapproche de son environnement, il va s'éloigner, j'imagine.
Parce que les gens qui vont dans les Alpes pour voir des loups, s'ils en voient, ils ont beaucoup de chance. C'est vraiment des probabilités rares de croiser le loup. Mmh. Lui, sa seule envie, c'est pas nous voir. C'est nous échapper, évidemment.
Bah, et de toute façon, il nous voit avant qu'on le voit. Hein,
il nous repère, il nous sent, il nous entend, il a des très très bonnes
qualités. Après, peut-être que si on a un accident, qu'on est blessé, et que là, voilà, on peut, enfin, c'est, je sais pas.
C'est même pas quelque chose qui a été raconté souvent. Il y a eu des histoires de récemment.
Il y a pas mal de films aussi qui racontent ce genre
de
choses.
Mais les loups-garous, tout ça, ça fait partie de ce qui nous fait peur.
Sans parler de loups-garous, c'est vrai qu'il y a certains films d'aventure, des choses comme ça, où des gens sont blessés et on voit que les loups tournent autour parce qu'on sent que la personne est affaibli, etc. Vous voyez, mais bon,
la réalité est sans doute un peu différente.
Voilà, c'est ça. Voilà. Mais là, on est vraiment dans le cinéma.
Et voilà, exactement. Et puis, on a eu des attaques de loups dans les siècles précédents, mais de loups aussi enragés.
Ça, c'était vraiment autre chose. Et le fait que la rage ait disparu d'Europe de l'Ouest, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très rassurant par rapport à ce danger-là qui est réel. Et on a des histoires dramatiques de loups enragés en France, dans les textes anciens. Mais ça, c'est quelque chose qui est fini aujourd'hui.
Alors, nous allons parler un petit peu plus de la protection du loup et aussi de ce problème de tir autorisé. Vous savez, il y a eu des arrêtés ces dernières semaines autorisant le tir des loups. Et nous sommes avec Patrick Boroffi, qui est vice-président de l'association Ferus, qui est une association de protection des grands prédateurs en France. Patrick, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, merci de nous rejoindre. Alors, l'association Ferus fait partie de Caplou. Hein. C'est un collectif d'associations qui rassemblait autour d'un projet commun qui est la protection du loup en France. Alors, je rappelle que le loup est une espèce entièrement protégée en Europe, et pourtant des tirs de loups sont autorisés en France et même organisés depuis cet été. Ça fait toute une polémique. Vous avez engagé des actions juridiques au niveau départemental et même jusqu'au niveau européen pour faire cesser ces tirs. Alors aidez-nous un petit peu à comprendre. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui dans un pays européen de déroger à la stricte protection du loup et d'autoriser des tirs de loups?
Oui, tout à fait. Hein. La directive européenne permet des dérogations. Dans le cas, le texte dit, pour prévenir des dommages importants à l'élevage. Donc, la possibilité de tirer un loup est autorisée par la directive européenne, il se doit être une dérogation dans des cas très particuliers. Notamment, il y a deux conditions. Il faut que la dérogation ne nuise pas au maintien d'une population dans un état de conservation favorable, et puis qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes. Donc c'est quelque chose qui doit être quelque part une exception. Ça ne doit pas être la règle comme c'est en train de le devenir en France. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a actuellement, si on regarde des pays voisins, notamment l'Italie ou l'Allemagne, on parle beaucoup d'Italie, mais on oublie l'Allemagne où il y a à peu près le même nombre de loups qu'en France. Hein, il y a une trentaine de meutes. Dans ces pays-là, il y a aucun tir, disons, légaux hein, contre le loup. Ils ont une gestion du loup sans avoir besoin de faire des tirs.
Patrick Boffy, alors on commence à peine avec vous, on va revenir justement sur ces dérogations, etc., comment ça se déroule en fait, comment ça se procède. On va en parler, Laetitia, après la météo et les infos, car il est bientôt 7h30. Je vous rappelle qu'on parle du loup ce matin, en ce dimanche, sur RMC, dans ce week-end des experts. À tout de suite, et puis bien sûr vos réactions au 3216 ou animaux@rmc.fr. À tout de suite. Laetitia Barlerin, que diriez-vous d'une petite question flash? En moins de deux minutes maintenant, vous vous engagez à répondre à la question de Vanessa que nous avons reçue sur la page Facebook de Vos Animaux sur RMC. J'ai un chiot Akita Inu de 4 mois, Laetitia.
Oui.
Une de ses oreilles n'est plus dressée. Mon mari lui donne des coquilles d'œufs sans succès. Que faire?
Le pauvre chien qui mange des coquilles d'œufs.
Je crois que c'est justement une coquille, non?
Alors, il faut savoir qu'entre 3 et 6 mois, on peut avoir chez le chiot des oreilles, surtout les races à oreilles dressées, comme par exemple les bergers allemands ou l'Akita Inu, on peut avoir des oreilles qui se cassent. Enfin, on a l'impression qu'ils se cassent. Alors, tout le monde dit « Ah, ça va plus se redresser, il n'est pas joli ». Bon, d'abord, moi, je trouve ça très joli, un chien avec une oreille cassée, mais bon.
C'est comme s'il faisait un clin d'œil tout le temps.
Oui, je trouve ça bon. Alors, ne paniquez pas. Pourquoi elle se casse? Tout simplement parce que l'oreille grandit vite et que le cartilage n'est pas assez solide pour supporter cette oreille.
D'accord.
D'où la pliure que vous pouvez voir au niveau de l'oreille. Et puis, on sait aussi qu'il y a une irritation des nerfs de la face parce qu'on a, entre 3 et 6 mois, le remplacement des dents de lait par les dents définitives.
Ah oui.
Il fait ses dents, le chiot. Donc, ça crée justement cette irritation des nerfs qui fait que l'oreille aussi peut se casser. Alors, ne donnez pas de calcium en plus. Enfin, les coquilles d'œufs, ça ne sert à rien en plus. Mais ne donnez pas de comprimé de calcium en plus parce que là, on sera dans l'excès de calcium, puisque l'animal a déjà du calcium dans son alimentation, et on peut avoir des conséquences désastreuses sur les articulations. Le manque de calcium comme l'excès de calcium est nocif chez le chien. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On attend. Vous allez voir, à partir de 6 mois, l'oreille va se redresser
automatiquement.
Pas d'attelle, pas de collage d'oreilles. D'accord. Aussi, j'ai vu ça. Mon Dieu.
Bon, on laisse faire et tout va s'arranger.
Oui,
hein, Laetitia, on est d'accord.
Rien.
Et 32-16 pour nous joindre. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h35, c'est RMC, le week-end des experts, les animaux, et on évoque les loups ce matin avec Laetitia et nos invités. Qui veut la peau du loup?
Oui, la question qu'on peut se poser, puisque vous savez que dans l'actualité ces dernières semaines, des tirs ont été autorisés sur des loups, jusqu'à 36 d'ailleurs. Et nous sommes avec Patrick Boffy, qui est vice-président de l'association Férus. Alors Patrick, beaucoup disent que le fait de chasser le loup, parce que c'est une espèce, comme on l'a dit dans la première demi-heure, qui est complètement protégée au niveau européen, et beaucoup disent que le fait d'augmenter la pression de chasse sur les loups, de leur faire peur quelque part, les empêchera d'approcher les habitations et donc les troupeaux. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, d'abord, en général, le loup ne s'approche pas des habitations. Hein. Il peut arriver qu'exceptionnellement, il y a des jeunes loups qui, effectivement, lorsqu'ils sont dans une phase de dispersion, passent à côté d'habitation, mais en général, il n'y a pas de...
Ils ont peur de nous.
Oui, tout à fait. Alors, l'effet de la chasse sur le loup... ne va pas avoir un effet direct sur la prédation sur les troupeaux. Hein. Il y a des études scientifiques qui ont été faites qui ont montré que lorsqu'il y a une pression de chasse sur le loup, pour des raisons, ça va augmenter le taux d'hormones qui favorise la reproduction. C'est-à-dire que quand il y a chasse, il y a aussi forcément des tirs de loups, hein, des loups qui sont tués. Et dans la saison suivante, le loup va se reproduire de façon plus importante avec des portées plus importantes. Tiens. Donc, au point de vue effet, ça va être totalement nul.
Mais pourquoi ça? Parce qu'il se sent menacé, donc instinctivement, il se reproduit plus?
C'est ça, tout à fait. Hein. Comme toute population qui se sent menacée, va essayer de se reproduire plus. Donc, déjà, c'est un effet totalement inverse de ce qu'on cherche. Et puis, le deuxième effet, c'est que si, au cours de tir, là, on parle de chasse, mais normalement, il ne s'agit pas de chasse. Hein. Il s'agit de tir administratif, quand même. En France, on est toujours dans un cadre administratif. Hein. Mm. Si on tire l'un des dominants, c'est-à-dire l'un des membres du couple alpha, parce que vous savez que la meute, elle est structurée avec deux loups qui se reproduisent uniquement, qui sont le mâle et la femelle alpha. Si on tue l'un de ces deux-là, ben, on va désorganiser complètement la meute. Et alors là, on peut avoir même un éclatement de la meute, parce qu'il y a des luttes de pouvoir au sein de la meute. Et là, au lieu d'avoir une meute qui est organisée, qui va s'organiser en chasse pour poursuivre et attraper des ongulés sauvages, on va avoir des petits sous-groupes d'animaux qui sont un peu déboussolés et qui vont s'attaquer à ce qui est le plus petit, c'est-à-dire les troupeaux.
On obtient le contraire, en fin de compte.
Tout à fait le contraire.
Alors, quels sont... on va parler de protection aussi des troupeaux. Quelles sont les actions concrètes menées aujourd'hui pour permettre la cohabitation, parce qu'il y a beaucoup d'actions, la cohabitation entre les loups et les bergers, puisque ce sont les premiers qui ont des problèmes avec ces loups.
Alors, dès l'arrivée du loup en France, hein, l'État français a pris des mesures pour aider les bergers à se protéger. Actuellement, il faut savoir qu'il y a un budget de 12 millions d'euros qui est dépensé pour 2014 pour la protection. Alors, à quoi est utilisé cet argent? Eh bien, les trois quarts de cet argent, ça sert à payer les bergers. C'est-à-dire que les salariés sont pris en charge à 80% par l'État. Il n'y a pas beaucoup de professions en France où les salariés sont comme ça aidés de cette façon. L'éleveur qui n'a pas de berger salarié, il va toucher une indemnité journalière aussi, hein, qui fait de l'ordre de 700 euros par mois à peu près. Pour le travail supplémentaire qui lui demande la présence du loup et donc les protections. Et puis ensuite, il va pouvoir, bien sûr, la protection humaine, enfin la surveillance humaine, c'est ce qu'il y a de plus important déjà pour la surveillance du troupeau, bien sûr. Il y a la présence de chiens de protection, hein, ces fameux patous.
On va en parler justement.
Les Pyrénées, qui sont aussi payés par l'État. Donc on reçoit une prime de 300 euros pour l'achat d'un chien. Et puis ensuite, une indemnité annuelle de 650 euros par chien pour l'entretien du chien. Et puis, dernière chose, une partie de cet argent va servir aussi à acheter donc les moyens de protection, c'est-à-dire les clôtures et les systèmes d'électrification. Tout ça, c'est pris en charge aussi à 80% par l'État, et ça représente 12 millions d'euros par an. Vous voyez, on voit que tout cet argent, c'est de l'argent qui revient finalement aux éleveurs.
Hein. C'est-à-dire que d'un côté, on donne de l'argent pour protéger les éleveurs, et de l'autre côté, on autorise à tuer les loups. C'est pas un peu contradictoire?
Normalement, je l'ai dit tout à l'heure, hein, le tir de loup devrait être exceptionnel, c'est-à-dire c'est une dérogation dans des cas bien particuliers. C'était le cas, disons, les tirs de loup n'ont pas commencé cette année, hein, ils ont commencé il y a 10 ans, mais on était sur quelques animaux de tirés par an, moins de 10 en général. Et puis à partir de 2013, on a commencé à augmenter les plafonds, parce que contrairement à ce qu'on dit, il ne s'agit pas de quotas à atteindre, mais de plafonds à ne pas dépasser. On est passé à 12, puis l'an dernier à 24, c'est-à-dire à 36. Et ce qui est, on voit les résultats, c'est que l'an dernier, il y a quand même une vingtaine de loups qui ont été tués officiellement, hein, puisqu'il y a un certain nombre qui ont été tués accidentellement ou clandestinement. Et puis la prédation a augmenté de façon très importante, presque 40% entre 2013 et 2014. Donc on voit bien que cette méthode ne donne aucun résultat.
Alors parlons des attaques de troupeaux. On a, c'est quand même traumatisant pour le berger, pour les animaux. On les comprend. Elles augmenteraient en France d'une année à l'autre selon les bergers. Il y a des indemnisations aussi qui augmentent du coup, parce que les bergers sont indemnisés. Voilà. Alors est-ce que les actions montraient leurs limites?
Il faudrait d'abord que les moyens de protection soient mis en place par tout le monde. Alors il y a des troupeaux qui sont très bien protégés. Ça ne veut pas dire qu'ils ont zéro prédation. Hein. À partir du moment où vous laissez, par exemple, le troupeau dans l'alpage sur une grande surface, vous ne pouvez pas surveiller tout le troupeau. Hein. Mais enfin, le principal, c'est la protection de nuit, par exemple, et puis la présence de chiens qui empêchent, qui est vraiment ce qu'on appelle des massacres, hein, c'est-à-dire des grosses prédations. Ça marche. Mais après, il y a un certain nombre de troupeaux hein, qui ne sont pas protégés. Il ne faut pas se raconter des histoires. Il suffit de se balader un petit peu dans les Alpes pendant l'été. On a des témoignages de très nombreux randonneurs qui rencontrent des troupeaux immenses qui sont dispersés. Il n'y a ni chien de protection, ni berger. Le berger doit passer de temps en temps les voir, mais c'est, malheureusement, dans ce cas-là, il y a une prédation sans limite pour le loup. Hein. Le loup, s'il est dans le coin, il va pouvoir se nourrir. C'est ce qui s'est passé un peu en Savoie ces derniers temps. Vous avez vu cette semaine ce problème avec des éleveurs qui ont pris en otage le directeur du parc de la Vanoise pour obtenir des tours de tir de loup. Alors qu'on sait qu'il y a une partie des troupeaux qui ne sont pas du tout protégés.
En plus, dans le parc de la Vanoise, c'est quand même un parc naturel qui est protégé.
Parc national. Oui,
national, pardon.
On exige actuellement de faire des tirs dans le cœur de parc. C'est dans une zone qui est strictement protégée. Tirer un animal protégé dans une zone protégée, c'est quand même pas quelque chose de normal, hein. Et c'est pour ça que nous, on s'insurge contre ce qui se passe actuellement au niveau du... De toute façon, c'est soutenu par le ministère de l'Environnement, donc on comprend pas ce qui se passe vraiment, quoi.
Alors moi, j'ai l'impression que le loup, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase dans une filière qui est face à beaucoup de problèmes.
Alors la filière, on parle surtout de la filière de production d'agneaux, hein, parce que pour le laitier, c'est un petit peu différent. C'est le troupeau plus petit qui sont rentrés régulièrement. Mais pour la filière agneau, la filière, c'est une filière qui marche pas mal au niveau financier parce qu'elle est entièrement dépendante des aides. Elle reçoit beaucoup d'aides. On peut dire que sur un éleveur dans les Alpes, actuellement, dans les Alpes du Sud, les deux tiers de ses revenus sont des aides, hein, aides françaises et aides européennes en majorité. Donc son revenu ne dépend pas tellement de la production qu'il va faire d'agneau, hein, mais essentiellement, il faut qu'il mette des animaux dans la montagne et... Il y a des aides au niveau européen importantes pour maintenir normalement ces éleveurs dans la montagne. Mais donc le loup est quelque chose de marginal au point de vue économique. Ça les embête sur le plan du fonctionnement. S'il y a des prédations importantes, effectivement, tout le monde comprend que trouver des animaux égorgés, etc., c'est pas quelque chose de réjouissant. Mais sur le plan économique, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, si vous entendez les revendications des éleveurs de ovins, il n'y a pas de revendication du côté économique, hein, contrairement à ce qu'on voit pour le lait ou pour le porc. Hein.
On revient dans un instant, Laetitia. On va avoir un autre témoignage, cette fois-ci d'un éleveur et d'un utilisateur de chiens de protection. On parlait tout à l'heure des patous.
Voilà, hein. Oui.
Nous aurons Mathieu Morias avec nous. Il est 7h43, c'est RMC. Et c'est le week-end des experts animaux. À tout de suite.
RMC, le week-end des experts. 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Précisément 8h moins le quart, c'est RMC. Bon dimanche et bon réveil à vous toutes et à vous tous. Peut-être venez-vous de nous rejoindre. Bienvenue. Jusqu'à 8h, c'est notre vétérinaire qui nous accompagne. Et après, on changera d'univers. Ce sera l'automobile avec Jean-Luc Moreau. Comme chaque dimanche, 8-10. On parlera de l'automobile et des femmes tout à l'heure. Laetitia, pour l'instant, on s'intéresse au loup. Et on en parle avec nos invités.
Voilà. Et on parlait de la protection des troupeaux. Hein. Il faut augmenter la protection des troupeaux, bien entendu, pour prévenir les attaques de loups. La protection est humaine, mais aussi canine. Et nous avons avec nous Mathieu Morias, qui est éleveur et utilisateur de chiens de protection dans les Alpes de Haute-Provence. Vous êtes éleveur de l'élevage du Hogan des Vents. Mathieu, bonjour.
Bonjour, oui, bonjour Laetitia.
Bonjour, merci d'être avec nous. Alors, en chien de protection des troupeaux, on connaît très bien le Montagne des Pyrénées, ou Patou, que vous élevez aussi. Alors, comment... mais il y a d'autres races. Hein. On a aussi le berger d'Anatolie, le Matin espagnol. Comment ces chiens, qui sont pas du tout des chiens qui dirigent les troupeaux, hein, comme le Border Collie, comment ces chiens protègent le troupeau d'une attaque de loup?
Alors, avant d'attaquer directement sur le chien, je voudrais faire une remarque par rapport à ce qui a été dit précédemment.
Oui, allez-y.
À savoir que dans les Alpes, non seulement les troupeaux sont protégés, mais ils sont aussi tous gardés par des bergers. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas de bergers et qu'on ne voit pas de chiens qu'ils ne sont pas là. Donc, je voudrais qu'on évite les généralisations abusives.
Non, mais c'est bien de préciser.
Les bergers font beaucoup d'efforts pour protéger leurs troupeaux. Alors effectivement, ça ne marche pas très bien avec les chiens, mais il y a des raisons
justement,
pour lesquelles ça ne marche pas.
Oui, parce que les chiens ont été décriés, justement. C'était un peu la solution qu'on avait présentée il y a quelques années, en disant il suffit de mettre des chiens de protection et c'est bon, les troupeaux sont gardés et sont protégés surtout, ce qui n'est peut-être pas le cas.
Oui, c'est vrai. Et en fait, en France, on a un énorme déficit de professionnalisme et de compétences dans le domaine du chien de protection. Donc les chiens ne sont pas de bonne qualité, les bergers sont mal formés à les utiliser, et en conséquence de quoi ça ne marche pas.
Mais qu'est-ce que ces chiens sont censés faire, Mathieu?
Alors, le travail des chiens de protection, en fait, contrairement à ce que beaucoup de gens imaginent, ce n'est pas de tuer les loups, c'est d'établir un périmètre de sécurité autour de leur troupeau. et ils vont réaliser ce périmètre en marquant le territoire avec leurs urines et leurs crottes.
Et déjà, ça a une certaine action sur les loups.
Tout à fait. Et donc, et la nuit, ils vont signaler leur présence par des aboiements quasiment continus. Ce qui, au passage, empêche beaucoup les bergers de dormir et qui est vraiment très fatigant à longueur
J'imagine.
De temps. Et quand le chien marque bien son territoire, alors c'est pas le chien, c'est une meute de chiens, puisqu'il est absolument nécessaire de mettre en place des meutes de chiens bien structurées pour faire face à des meutes de loups, parce que la protection, elle se joue essentiellement dans un rapport de force entre deux groupes de canidés qui se comprennent très bien.
C'est-à-dire qu'un seul chien ne peut pas protéger d'une meute de loups.
Absolument pas. Et d'ailleurs, beaucoup de chiens sont tués par les loups quand ils sont en sous-nombre pour protéger leur troupeau.
D'accord. Donc il y a malgré tout une menace, c'est-à-dire que les loups peuvent attaquent ces troupeaux même s'il y a des chiens.
Alors, les loups essayent toujours d'attaquer le troupeau. Ils vont tester la qualité de protection des chiens. Si les chiens ne sont pas assez nombreux ou ne sont pas de bonne qualité, ils vont vite trouver des failles et ils vont les distraire ou les tuer et se servir largement dans le troupeau. Si les chiens sont formés dans une meute structurée, c'est une meute dans laquelle on a des chiens de différents âges, des chiens très expérimentés de plus de 5 ans, donc des chiens qui ont connu le territoire, qui ont connu les loups, qui savent les affronter ou en tout cas les bloquer, des jeunes chiens entre 3 ans et 5 ans qui sont expérimentés mais sans plus, et puis des jeunes chiots entre 3 mois et 2 ans qui sont en train d'apprendre. Quand on a une meute qui est constituée comme ça, les loups reculent systématiquement.
Et est-ce qu'ils sont efficaces contre les chiens dits errants, les chiens sans maître?
Très efficaces contre les chiens errants aussi, quoi. Ce qui pose aussi des problèmes, puisque par exemple, dans le cas du berger d'Anatolie, on peut avoir des chiens qui attaquent les chiens de promeneurs qui sont trop près des troupeaux, et voilà, c'est souvent problématique aussi.
Alors, il y a aussi un problème, on le voit aussi dans certains articles, c'est que ces chiens-là protègent le troupeau contre les loups, mais des fois contre le promeneur du dimanche qui fait sa petite randonnée dans la montagne, on a des cas de problèmes d'attaque, d'agressivité, voire de morsure. Et ça, vous le déplorez dans le sens où ce sont des chiens, bien souvent, qui n'ont pas été socialisés à l'homme.
Oui, alors il y a un vrai déficit de génétique dans les chiens de protection en France. On n'a aucune filière de sélection, aucun programme de sélection. Donc n'importe quel chien est peut-être balancé au milieu d'un troupeau comme chien de protection, alors qu'il n'en a absolument pas les aptitudes.
Et puis ce que j'ai lu, c'est que c'est écrit partout qu'il faut mettre le chiot au milieu du troupeau et le laisser grandir presque sans être imprégné par l'homme, ce qui est quand même
c'est une erreur terrible.
C'est une erreur terrible.
Qui est terrible et qui a fait de gros dégâts depuis plus de 20 ans en fait.
Eh oui, parce qu'au contraire, il travaille avec l'homme et il doit être justement socialisé à l'homme.
Il doit être très bien socialisé et ça n'empêche pas du tout qu'il soit efficace dans son travail de protection, quoi.
Donc ça manque de professionnalisme en ce qui concerne ces chiens-là, en fin de compte.
Absolument, totalement. Les bergers ont eu des très mauvais conseils pendant plus de 20 ans et maintenant c'est très difficile de faire marche arrière. On leur a dit qu'un chien c'était suffisant alors que c'est jamais le cas. Il faut toujours travailler avec des meutes de chiens et constituer une meute de chiens qui soit efficace et opérationnelle, ça demande 10 ans. Donc c'est pas quelque chose qu'on fait du jour au lendemain. Et si on veut parler des choses qui fâchent, former un jeune chien, c'est déjà au moins 2 ans de travail et d'éducation. Le coût de production d'un chien sélectionné, vendu à 3 mois, c'est au bas mot 1000 euros. Alors que l'État ne donne que 375 euros pour acheter un chiot.
Ouais.
Donc il y a quelque chose qui fonctionne pas du tout, quoi.
Mais donne quand même 350 euros.
Oui, mais...
Si le chien coûte 1000 euros et qu'il en faut plusieurs, c'est quand même un budget malgré tout,
oui,
c'est
donc,
ça.
D'où l'intérêt de faire créer, c'est la démarche que j'ai actuellement, c'est de faire créer des meutes aux bergers en leur vendant un couple de chiens reproducteurs, de façon à ce qu'ils puissent créer eux-mêmes leurs meutes.
D'accord.
Merci Mathieu.
Merci beaucoup.
Merci pour ces
Mathieu
précisions.
Mathieu Mauriès, éleveur et utilisateur de chiens de protection dans les Alpes de Haute-Provence. Merci pour votre témoignage ce matin. Laetitia, bien voilà, hein, c'est vrai que c'est un sujet qui est très intéressant. On l'évoque de temps en temps dans ce rendez-vous animaux.
On l'évoquera aussi souvent, hein,
bien
je pense
sûr.
Que ça vous intéresse
bien
aussi.
Évidemment.
Je vous remercie Patrick Boffy qui est vice-président de l'association Férus et
François Moutou,
qui est avec nous aussi, qui nous a donné pas mal d'informations sur le loup.
Bon, après le loup, autre canidé, Laetitia. Plus petit, peut-être moins...
Plus petit ou plus grand, hein.
Mais non, mais là, c'est des chiots.
Ah oui, oui, c'est vrai.
C'est
plus
vrai.
Petit.
Voilà. Et puis bon, on va pas à l'école avec un loup. En revanche, il existe maintenant des écoles, Laetitia, pour les chiots.
Oui, c'est ce qu'on appelle l'école pour chiots. Et nous sommes avec Laetitia Rébérol, qui est auxiliaire spécialisée vétérinaire et qui propose à Challans, en Vendée, une école de chiots. Bonjour Laetitia.
Oui, bonjour à vous.
Bonjour. Bonjour. Alors, c'est un peu la mode en ce moment dans les clubs d'éducation et puis dans certaines cliniques, c'est de proposer aux personnes qui ont des chiots de venir à l'école avec leurs chiots, entre guillemets. Hein. Oui. Qu'est-ce que cette maternelle pour chiots?
Alors, ça existe déjà depuis de nombreuses années, hein, quand même. Ça fait à peu près 10 ans, 15 ans maintenant que ça installe les écoles de chiots. Et en fait, c'est un vrai lieu d'échange entre les humains, qui peuvent venir seuls, accompagnés avec les enfants ou même porteurs d'un handicap, pardon, et les chiots qui vont venir apprendre par petits groupes les bases de l'éducation et surtout les règles de vie en société.
Alors c'est un peu un éveil des petits, hein, comme en maternelle. En pratique se passe une séance?
Alors, mais c'est des séances souvent collectives quand même.
Oui. Pour que le chiot apprenne à être en contact avec les autres chiots et les autres personnes, j'imagine.
C'est ça, tout à fait. Donc du coup, on travaille aussi sur les manipulations sur le chiot, de façon à bien le désensibiliser aux caresses, aux gratouilles, à vérifier bien les oreilles, etc., etc. On va avoir des temps de jeu, justement, de façon à ce que les propriétaires observent leurs chiots.
Oui.
On fait des échanges un peu comme ça. Et puis, bien sûr, on travaille sur les règles de base, donc le assis, le marcher en laisse, et puis les règles de vie, ne pas mordiller, ne pas détruire, et la propreté aussi.
C'est vrai qu'on n'a pas le mode d'emploi quand on adopte un chiot, et c'est vrai qu'on peut faire des erreurs. Alors, à partir de quel âge peut-on inscrire un chiot dans cette école?
Alors, en fait, dès 2 mois, dès l'adoption dans la famille. Plus c'est pris tôt, on va dire, et puis plus on évite les petits soucis de compréhension avec son animal.
Alors, quelles sont les erreurs, justement, classiques que vous rencontrez avec des propriétaires de chiots?
De vouloir tout apprendre trop vite.
Ah.
C'est-à-dire, tout petit, déjà, on va leur apprendre le assis, le coucher, donne la patte. Or, l'éducation du chiot, ça passe surtout par la communication d'abord et comment échanger avec son chien pour justement lui apprendre les choses. Mais c'est pas forcément assis, coucher, donne la patte. D'accord?
Oui, ça se réduit pas à ça, un chiot. Et alors, vous faites des séances aussi à l'extérieur, des séances qui sont très importantes.
Oui, on va mettre en pratique du coup tout ça dans des parcs, à la plage, ou alors sur des brocantes, etc., de façon à désensibiliser le chien pour qu'il rencontre d'autres odeurs, d'autres personnes. Et puis tout le monde n'a pas la possibilité aussi de sortir comme ça. Donc là, ça permet à tout le monde en fait de passer un bon moment en tenant son chien en laisse, en l'imprégnant de d'autres milieux aussi.
Alors c'est pas tous les jours, hein. C'est pas comme nos gamins. C'est une fois par semaine à peu près que vous proposez.
Oui, c'est une fois par semaine. À savoir que les devoirs doivent être faits tous les jours à la maison.
Ah, il y a des devoirs à la maison.
Oui, il y a devoirs, c'est ça. Parce que si on travaille qu'une fois par semaine avec son chiot,
ça suffit
on
pas.
Va pas aller très loin. Voilà, et encore pas très vite non plus.
Merci.
Donc l'intérêt, voilà.
Merci
tout
Laetitia. Ça coûte combien? Une école pour chiots?
Oui. À peu près, c'est 15 euros par chiot.
D'accord, parfait.
Voilà.
Merci beaucoup Laetitia.
Merci.
Je vous en prie.
Alors, vous proposez à Challans, en Vendée, une école de chiots. On mettra le lien justement sur notre
Bien
page
sûr.
Facebook.
Laetitia, on termine avec notre vidéo LOLcat de ce dimanche matin. On ne dit pas Facebook, hein, Laetitia.
Mais je l'ai fait exprès.
Ah d'accord, c'est pour ça. C'est comme les gros codiles.
On dit aussi face de bouc, mais
c'est ça. Non, mais là, quoi que dans les rendez-vous animaux, on y est presque.
Eh ben oui, voilà.
Laetitia, on termine avec notre vidéo LOLcat de ce dimanche matin, et c'est un chat un peu particulier,
oui,
qui adore un outil ménager qu'en général le chat déteste.
Eh oui, il contredit un petit peu ce que je dis, parce que souvent je vous dis, si votre chat vous embête la nuit, branchez votre aspirateur.
Et vous verrez, ça le fait partir.
Et alors là, ce chat, il adore l'aspirateur, mais surtout il adore qu'on mette l'aspirateur qu'on aspire ses poils, voyez.
Oui.
Et il se met zen en attendant, voilà, qu'on le. Alors c'est bien parce qu'au moins on n'a pas à le brosser.
Non, ça
on
c'est pratique.
Tous les poils morts.
Et on a l'impression pour lui c'est un petit spa.
Hein, oui, c'est, voilà. C'est comme
c'est un massage personnel, c'est très sympa. Une vidéo retrouvée donc sur la page Facebook.
Vous savez, j'ai un ami, moi, il a un aspirateur automatique et le chat se couche dessus et se fait promener dans l'appartement ça, sur génial. L'aspirateur automatique.
L'aspirateur robot, là.
Ouais, ouais.
Ouais, c'est cool. On avait vu des vidéos comme ça. Laetitia, on se retrouve dimanche prochain entre 6h et 8h et un sujet qui va vous passionner tout à l'heure entre 9 et 10 avec Jean-Luc Moreau, c'est le rapport entre les femmes et la voiture.
Oui, vous connaissez la place des femmes dans une voiture.
C'est pas droit.
L'automobile. Non, c'est dans le coffre en général.
Ah, oh non. Ça, c'est pas beau. On parlait tout à l'heure des créneaux faits par des femmes.
Ça va voler très haut, cette émission.
Non, c'est la place des belles-mères. Non, mais nous aurons des femmes essentiellement comme invitées.
Ah, tant mieux.
Non, là, on est en train de défendre la position de la femme dans la voiture.
Exactement, pour démontrer que c'est une vraie tendance lourde. Depuis quelques années, les femmes sont à la fois décisionnaires dans les achats, mais aussi dans la conception des véhicules. Vous allez voir qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont aux manettes et pas pour des véhicules insignifiants, pour des voitures très importantes.
Jean-Luc, dans un instant, pour ce rendez-vous auto, Laetitia, à dimanche prochain.
À dimanche prochain, je vous embrasse.
Et dans un instant, après la météo des infos, donc, ça sera l'automobile sur RMC. À tout de suite.